Le SNCL, le salon des maires et des collectivités locales du 16 au 18 novembre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Action Logement sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Je vais quand même demander aux techniciens de me baisser le son parce que soyez sympas pour les oreilles, là je vais vraiment dérouiller sévère, ça va être sympa. Bon, c'est les aléas du direct, effectivement, on est ici toujours le 16 novembre 2021 au Salon des maires et des collectivités locales. On va parler, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure avec les élus locaux, des problématiques justement liées à la connectivité et l'importance effectivement de des télécommunications dans les territoires. On ne peut pas tout résoudre d'ailleurs, il faut être très clair là-dessus, mais en tout cas on va évoquer aussi le sujet avec Anthony Colombani qui est avec nous sur le plateau.
Bonjour.
Vous êtes directeur corporate et RSE, donc RSE, responsabilité
sociétale et environnementale des entreprises.
Et environnementale, donc inutile de dire que ça recoupe quand même un sacré sujet pour le compte de Bouygues Télécom. Alors, vous êtes un habitué du Salon des maires.
Alors, je suis un habitué du Salon des maires, je crois que et je travaille plus, depuis 20 ans, j'y suis depuis 20 ans.
Et vous venez même de, dans vos origines aussi, vous avez travaillé dans la fonction publique territoriale, vous avez travaillé aux affaires publiques de Bouygues, maintenant vous êtes directeur corporate RSE. Vous avez un champ d'investigation qui finalement pèse sur vos épaules, c'est toute l'image du groupe finalement quand on y réfléchit.
Oui, j'ai dans mes équipes la communication, donc l'image que Bouygues renvoie à l'extérieur, notamment vis-à-vis des institutionnels, des élus, des collectivités territoriales, c'est ce qui explique notre présence aujourd'hui, vis-à-vis de la presse, vis-à-vis de nos collaborateurs aussi, on communique de plus en plus vers eux.
Vous êtes aussi président de la fondation de Bouygues Télécom.
Oui, je suis président de la fondation d'entreprise Bouygues Télécom.
C'est quoi le rôle de cette fondation
Alors c'est une fondation qui a été créée il y a 15 ans, qui originairement s'occupait beaucoup d'inclusion numérique, donc on allait apporter de la connectivité à des personnes qui en étaient dépourvues pour plein de raisons, qui peuvent être liées à l'âge, à la santé, etc. Aujourd'hui on a un peu changé notre fusil d'épaule, 15 ans après on a un peu revu notre modèle, et aujourd'hui la fondation elle soutient l'engagement bénévole, et elle soutient le bénévolat sous toutes ses formes. Donc nous avons plusieurs actions qui sont dirigées vers les associations, nous avons un incubateur associatif sur le modèle des incubateurs de start-up. Nous avons lancé une offre dédiée aux associations et nous aimerions que le bénévolat, qui est un trésor de cohésion dans les territoires, se développe et on essaye de travailler à ça.
Alors depuis 20 ans sur le Salon des maires et des collectivités locales, c'est important pour vous de parce que vous êtes effectivement en lien avec eux au quotidien. C'est un fort ancrage pour vous, Bouygues Télécom, avec la relation avec le Salon des maires, l'Association des maires de France, les collectivités locales et aussi les communautés de communes.
Sans les maires, sans les élus locaux, on ne pourrait pas faire notre métier. Nous sommes un opérateur, nous déployons des infrastructures fixes et mobiles. On a plus de 20 000 antennes, par exemple, et ces antennes, elles sont implantées dans des territoires, dans des communes. Et comme on souhaite que l'implantation se fasse dans des conditions de transparence et de dialogue de grande qualité avec les élus, évidemment, les élus sont nos partenaires naturels et historiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est présent sur le Salon des maires depuis aussi longtemps que Bouygues Télécom.
C'est quoi les grands enjeux pour vous avec les collectivités ? C'est quoi le contrat vous avez avec eux ? Quel enjeu préside au fait qu'on coopère avec des opérateurs ? Alors vous, comme d'autres d'ailleurs, vos collègues, mais pourquoi ? C'est quoi ces enjeux ? Est-ce que c'est des enjeux environnementaux ? Est-ce que c'est le poids carbone aussi ? Parce que j'avais relevé par exemple que le numérique est responsable de 4% de la production de gaz à effet de serre aujourd'hui, hein, vous êtes d'accord ?
Absolument.
C'est autant que l'aviation.
À peu près,
hein, ouais. Quasiment. Et on estime que cette part, elle passe à 8%.
8% dans 10 ans.
À 2030, voilà, 2030. C'est clair, c'est important de sensibiliser les questions, de sensibiliser vos clients à ces questions. Et vous avez même, je crois, d'ailleurs, lancé une application sur ce thème.
Absolument. Alors, il y a beaucoup de questions.
Oui, on va faire le... Oui,
faisons
le
tri.
On va faire le tri. Enjeux avec les collectivités locales, le fait qu'on va aller de plus en plus vers une décarbonation de l'industrie, des services, voilà, comment, voilà, dans l'ordre. Allez-y. Alors,
on va dire que le dialogue que nous avons avec les élus locaux, il est très marqué par l'actualité, par les préoccupations des maires, et on discute avec eux de tout ce qui les intéresse et de tout ce qui intéresse leurs administrés. Historiquement, pour un opérateur mobile, le vrai débat, c'est les enjeux liés aux effets des ondes. C'est l'inquiétude qui a pu voir jour à un moment autour de l'effet des ondes, et on a dû beaucoup expliquer, rassurer, transmettre les éléments qui sont faits par les autorités de santé et discuter avec les élus pour implanter les antennes et les implanter dans de bonnes conditions. Mmh. C'est vrai que vous avez tout à fait de raison de signaler que depuis 2-3 ans, les enjeux environnementaux deviennent absolument centraux dans le dialogue que nous avons avec les élus. Et nous avons beaucoup de communes avec qui nous parlons aujourd'hui de consommation électrique, de compteurs intelligents, de réduction de l'empreinte carbone, d'utilisation de smartphones reconditionnés. Et j'allais dire, il en va du dialogue avec les élus comme du dialogue avec la société en général. Ce sont des sujets qui montent de plus en plus. Je ne dirais pas que le sujet environnemental a éclipsé le sujet des ondes, mais c'est vrai que ça s'est un petit peu calmé sur le front des ondes.
C'est vrai que ça a été un
Ça a été un grand sujet d'inquiétude.
Fondé ou pas ?
Non, pas fondé. Nous, on est, comme tout le monde, lecteurs des rapports.
Tous ceux qui parlaient que la 5G allait par exemple, irradier nos cerveaux. Non, mais je caricature, mais littéralement irradier nos cerveaux, qu'il fallait porter des casques.
Des casques en aluminium. Non, vous inquiétez pas pour votre cerveau, vous pouvez tout à fait continuer à téléphoner.
On est d'accord.
Non, nous, on est, si vous voulez, comme opérateurs, on est lecteurs des rapports de l'ANSES, hein, de l'autorité qui fait autorité en France sur ce sujet-là.
Mais de toute façon, Anthony, on est saturé d'ondes électromagnétiques.
Alors, autour de nous, il y a des ondes partout. Tout émet des ondes. Un micro-ondes émet des ondes. Une plaque à induction émet des ondes. Une ampoule halogène émet des ondes. Tout émet des ondes. Ces émissions, elles sont contrôlées, encadrées, elles font l'objet de mesures, elles font l'objet de transparence. Et aujourd'hui, quand on installe une antenne, un élu sait combien elle émet, dans quel sens, dans quelle direction, etc. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande aussi combien elle consomme et quelle est notre contribution à la décarbonation de l'économie. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça montre que le sujet de l'environnement est pris de plus en plus localement. Et la vraie clé de la réussite, c'est que ce soit vraiment pris localement. Une des interrogations qu'on a, nous, chez Bouygues Télécom, c'est d'arriver à faire prendre conscience à nos clients que le numérique a un impact environnemental. Le numérique, vous avez à côté de vous un smartphone, moi aussi, un smartphone, ça n'a pas de pot d'échappement, on ne voit pas que ça pollue. Et on peut même avoir l'impression que passer un coup de fil, liker, regarder une vidéo, uploader, ça n'a pas d'impact.
C'est très vrai.
C'est transparent.
D'ailleurs, ceux qui likent et qui font le truc, souvent, ils défendent l'environnement.
Alors, ça, c'est assez amusant.
Non, mais c'est vrai.
Bien sûr, il nous arrive de discuter avec des associations qui défendent
l'environnement. C'est comme Michael Bloomberg qui disait qu'il fallait prendre les transports en commun.
Ouais.
Il a 7 jets privés, 44 voitures et je crois à peu près une vingtaine de maisons privées. Quoi.
À mon avis, il a un impact carbone qui est considérable.
Et donc, il dit aux New-Yorkais, non mais c'est extraordinaire.
Ouais.
J'ai adoré l'idée parce que quelque part, il y a une déconnexion entre les deux.
Alors, le numérique, c'est vraiment important de comprendre que comme toute activité humaine, il engendre de la pollution, il engendre des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la mise sur le marché des terminaux. Un terminal, aujourd'hui, c'est fabriqué dans des contrées où souvent les usines sont encore alimentées au charbon, majoritairement. Et donc, l'empreinte carbone de la création d'un smartphone ou d'ailleurs d'un réfrigérateur, d'une télé connectée ou de n'importe quel objet technique est extrêmement importante. Par ailleurs, il y a un impact environnemental qui est lié à l'usage et à la consommation électrique des infrastructures. Aujourd'hui, on a des usages numériques qui augmentent d'environ 30% par an. Avec le Covid, ça a même été un tout petit peu plus important. Et on est dans une tendance d'augmentation des usages qui nous oblige, nous opérateurs, à prendre toutes les mesures nécessaires pour baisser notre consommation électrique. Alors qu'on n'arrive pas tout à fait à compenser l'augmentation des usages, mais on arrive, on va dire, globalement à avoir une consommation électrique qui est stable dans le temps, alors que les usages continuent à augmenter. Et ça, on le fait de plein de manières différentes, en équipant nos antennes de compteurs intelligents, en éteignant certaines fréquences la nuit, et surtout en agissant au niveau des smartphones.
Alors, je vais dire aux auditeurs, je vous rassure, hein, on n'est pas payé par Bouygues Télécom, mais je vais vous dire une chose, Bouygues Télécom a toujours été l'opérateur le plus frugal, le plus en avant, et parce que j'avais rencontré à l'époque beaucoup de personnes de votre groupe, hein, notamment au siège historique du groupe, hein, qui est un siège exemplaire, puisqu'à l'époque il avait été remarqué par sa cabine de pilotage, notamment. C'est l'immeuble Challenger qui se trouve dans les Yvelines. C'est intéressant parce que chez Bouygues, vous avez cette. Ça m'a toujours frappé, ce côté modèle un peu start-up. Je caricature, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une entreprise multinationale qui a une espèce de réflexe très frugal, très, très dynamique. C'est toujours aussi vrai, ça.
On est une start-up créée après guerre.
Ce que vous venez de dire correspond tout à fait à l'ADN que vous avez.
En fait, le groupe est très important pour nous. D'abord, on s'appelle Bouygues, et c'est très important d'assumer cette identité.
Ouais. Et c'est un nom. Hein,
c'est un nom important, c'est un nom qui compte. L'actualité autour des France l'a encore démontré.
C'est clair.
La chance qu'on a, c'est que les valeurs historiques du groupe, qui sont les valeurs de ses fondateurs, continuent à infuser dans l'ensemble des métiers.
C'est vrai, hein. C'est tout à fait vrai.
Cette valeur de frugalité, de sobriété.
Quand Bouygues Télécom a démarré, hein, ils étaient que 3 hein, au début. Hein. Après, ils sont passés à 10. Non mais c'est fou.
Au début, c'était
un pari qui n'était pas...
J'ai encore quelques collègues qui m'ont raconté les temps héroïques du lancement de Bouygues Télécom dans les caves de Challenger, où quelques ingénieurs s'étaient mis en commun. Et aujourd'hui, on a 10 000 collaborateurs et on a la fierté d'avoir vu passer par les effectifs de Bouygues des dizaines de milliers de gens qui se sont formés puis qui sont allés ailleurs.
C'est extraordinaire. Alors j'aimerais qu'on aborde un sujet qui me plaît beaucoup. Et j'aimerais bien qu'on explique à nos auditeurs ce que ça veut dire, ce que c'est. C'est quoi le New Deal mobile ?
Alors le New Deal mobile, le terme est un peu
curieux. Alors c'est vrai que ça fait, pour ceux qui font de l'histoire, c'est le New Deal à la Roosevelt. Hein.
C'est ça, ça rappelle la sortie de crise de 1929, mais là on est sur un modèle complètement différent. Le New Deal mobile, c'est un accord historique qui a été passé entre d'une part les opérateurs et d'autre part le gouvernement pour améliorer la couverture des territoires. Il y a 5 ou 6 ans, on s'est rendu compte que...
Lutter contre les zones blanches,
c'est-à-dire aller couvrir là où c'est pas couvert, et lutter contre les zones grises, c'est-à-dire les zones où il peut y avoir qu'un seul opérateur, et d'une manière générale, améliorer la couverture le long des routes, le long des voies de chemin de fer, et dans tous les endroits où il y a besoin de couverture. Un opérateur, pour travailler, ça a besoin d'avoir des fréquences. Ces fréquences, on les achète aux enchères et on paye ensuite, en général, des redevances. On les paye très cher.
On les achète aux enchères ?
On les achète, vous voyez. Il y a des enchères qui sont organisées entre opérateurs. Chacun y va de ses centaines de millions d'euros. Et à la fin des fins, on remporte des lots d'un stock d'ondes, si vous voulez, qu'on peut utiliser. Et plus on en a, mieux c'est, parce que plus le spectre est important et plus on peut couvrir le trafic.
Bien sûr. Okay.
Donc c'est très important pour les opérateurs qui se battent souvent comme des chiffonniers pour avoir le meilleur stock possible. Et évidemment, tout ça fait les affaires de l'État qui alimente ainsi son budget. Et tout ça est tout à fait logique et normal. Et c'est comme ça que fonctionne le monde des opérateurs depuis très longtemps.
Mais c'est quoi ? Qui gagne ? C'est le mieux-disant, toujours ?
Il y a des systèmes extrêmement compliqués.
D'accord,
c'est plutôt le mieux-disant. Après, sur certaines enchères, on va favoriser la montée au cocotier en favorisant le moins-disant. Pour certaines enchères, le gouvernement fait le choix d'attribuer des lots pour un prix fixe.
D'accord.
Et ne met aux enchères.
Mais est-ce que l'État essaie de préserver un équilibre entre tous les opérateurs ? En disant, je vais nourrir Orange, je vais nourrir Bouygues, je vais nourrir SFR. Non, parce que, voilà, pour ne pas créer de distorsion, vous voyez ce que je veux dire ?
Bien sûr. D'une manière générale, les autorités publiques font en sorte qu'il y ait un équilibre.
Qu'il y ait un
jeu de la concurrence.
D'accord.
Mais à la fin des fins, évidemment, il y a toujours des mécanismes qui permettent d'équilibrer les lots.
Okay.
Il y a d'ailleurs régulièrement, et sous l'autorité de
l'ARCEP... Est-ce que ça a changé quelque chose, ce New Deal ?
Alors, ce New Deal, pour en revenir au New Deal, donc les opérateurs sont allés voir le gouvernement et ils ont dit, écoutez, nous, si vous voulez qu'on aille encore plus loin sur le territoire, il ne faut pas nous revendre des fréquences. Il y avait des lots de fréquences qui arrivaient à échéance pendant le quinquennat. Il faut prolonger ces fréquences sans qu'on ait à repayer. Et en échange, nous allons couvrir le territoire de manière massive. Et ce New Deal, c'est au fond un échange. L'État a accepté de mettre les fréquences au service de la couverture numérique du territoire et les opérateurs ont accepté, grâce à cette économie, d'aller beaucoup plus loin en termes de couverture. On dit souvent que c'est un accord à 3 milliards. L'État a renoncé à 3 milliards d'enchères et les opérateurs, les 4 opérateurs qui sont impliqués, ont déployé pour 3 milliards d'euros sur les territoires. Alors, il y a de multiples programmes à l'intérieur du New Deal. Il y en a un qui consiste à passer l'ensemble des antennes 3G en 4G. Ça, c'est presque terminé.
Oui, ça s'est fait. Ça
c'est quasiment fait partout. On doit être à plus de 99%. Il y a un programme qui est très important et très utile pour les élus, qui est un programme qui s'appelle le dispositif de couverture ciblée. Là, c'est une idée assez novatrice qui a été faite dans le cadre du New Deal. C'est de dire, au fond, c'est aux élus de dire à quel endroit il faut couvrir. Nous, opérateurs, on a une vision, c'est où sont nos clients, c'est où sont les activités, mais c'est toujours l'élu qui sait exactement où il faut mettre la couverture, parce que c'est là qu'il va y avoir une zone d'activité, parce que c'est là qu'il y a un chemin de grande randonnée, parce que c'est là qu'il y a une implantation ou des chemins très fréquentés par les randonneurs. Et donc, dans le cadre d'une gouvernance qui fait intervenir les collectivités territoriales, le département, l'État, on choisit des zones à couvrir. Ces zones sont identifiées, elles font l'objet d'un arrêté. L'arrêté est transmis aux opérateurs. Les opérateurs, ensuite, implantent l'antenne pour couvrir la zone. Alors, ce n'est pas l'élu qui choisit l'endroit où on met l'antenne. Ça, c'est notre travail d'opérateur, ce sont nos ingénieurs qui savent. Mais c'est l'élu qui nous dit, c'est cette zone que je veux voir couverte. Chez moi, en Corse, par exemple, les aiguilles de Bavay, là où il y a énormément de, de randonneurs et qui ont besoin de pouvoir téléphoner pour des raisons de sécurité, mais aussi parce que c'est sympa de faire un selfie avec les aiguilles derrière, eh bien, on va mettre l'antenne.
Et ça marche.
Et ça marche. On n'aurait pas forcément mis une antenne aux aiguilles.
Sur le GR20, il y a des trucs.
Alors, le GR n'est pas tout à fait couvert. Il y a encore des zones au milieu qui ne sont pas couvertes, mais une grande partie est couverte. Et voilà. Et ce dialogue est très important et il a permis d'apaiser les relations et de sortir de cette opposition stérile entre. Nous, opérateurs, on n'arrêtait pas de dire on couvre, on met des milliards chaque année sur le territoire. Et beaucoup d'élus nous disaient c'est bien beau de mettre des milliards, mais moi, mon village, il n'est pas couvert, mon centre-bourg, il est mal couvert, et le hameau à côté, il n'est pas couvert.
C'est clair.
Donc là, on sort de ce dialogue un peu stérile et on avance. Et je remarque que ces questions de couverture, qui restent très sensibles, parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est un fluide vital, comme l'eau, le gaz ou l'électricité, c'est quand même un sujet un peu plus apaisé.
Alors, dernière question. Alors, je sais qu'on vous en parle beaucoup, mais c'est normal. Je veux dire, c'est. Je comprends que ça titille un peu les Français. C'est la souveraineté numérique, la protection des données, etc. C'est pas anodin. Hein. On va dire que la data est devenue un fluide quasi aussi essentiel que l'eau ou le pétrole, on peut le dire.
Ouais, absolument.
D'ailleurs, on parle d'ailleurs de la data comme le nouvel or noir, hein, dans une certaine mesure.
Enfin,
avec beaucoup de fantasmes.
Hein. Oui.
Pour quel usage dans la ville et les territoires de demain, justement, si on parle. Je prends un exemple. Alors, je crois que c'est vous qui avez gagné le concours. On Dijon, c'est vous, il me semble.
On est très. Oui, on travaille beaucoup avec la Smart City Dijon,
avec François Rebsamen. On avait fait le lancement de On Dijon au MIPIM il y a 3 ans.
Ouais.
Donc, c'est en fait là. C'est quoi? C'est de l'open data.
Alors, l'open data, c'est. La question centrale, c'est celle de la confiance. Pour qu'une ville connectée fonctionne, il faut que les données circulent à l'intérieur de la ville. Il faut qu'on localise les personnes.
Et donc qu'elles soient libres d'accès.
Il faut absolument que ces données circulent. Pour qu'elles circulent, il faut que les gens aient confiance. Si on commence à ne plus se servir des services, etc., ça ne fonctionne plus. L'open data est une des modalités d'instauration de cette confiance, parce que quand les données circulent librement, eh bien, c'est plus facile d'échanger et c'est plus transparent.
Ah oui, c'est clair.
La transparence et la confiance sont des éléments absolument centraux dans la souveraineté. Et il n'y a pas de ville intelligente si les données ne circulent pas, et les données ne circulent pas si les citoyens ne jouent pas le jeu et n'ont pas confiance dans les infrastructures. Et là aussi, les élus ont un rôle pédagogique essentiel à jouer.
La transparence et la confiance sont les deux mamelles de la prospérité. Non, mais c'est intéressant, parce que finalement, on voit bien que cette question du souverainisme numérique à la française, est-ce que c'est... Objectivement, vous me répondez si vous voulez, est-ce que chez Bouygues, la particularité française de la protection des données, c'est quelque chose qui vous tient à cœur?
La protection des données de nos clients, c'est absolument central, parce que si demain on avait un accident...
Oui, c'est une entreprise française.
C'est une entreprise française. Voilà. Nous avons des clients et nous avons une très forte responsabilité. Hein. On a aujourd'hui 13 millions de clients dans le mobile, 3 ou 4 millions dans le fixe. Ces clients-là, on les facture, on récupère leurs informations. Et donc, évidemment, on fait très attention à bien protéger les données. Vous parliez de souverainisme, je ne sais pas si le terme est le bon, mais aujourd'hui, ce n'est pas tellement français. C'est plutôt européen, du RGPD. Oui. Mais en tout cas, on y porte une attention très importante. Et encore une fois, un élément central de la protection des données, c'est la transparence. Quand nos clients savent pourquoi on récupère des données, comment on les stocke,
c'est
très important pour eux. Et on fait beaucoup d'efforts pour qu'ils comprennent bien ce qu'on fait avec leurs données et qu'ils puissent évidemment refuser de donner certaines données.
Alors, vous avez un stand ici.
Juste en face.
Le numéro, c'est...
Eh bien, je ne sais pas.
Voilà, on est dans le pavillon 4, à côté. Bah, écoutez, c'est simple. Le stand B58, pavillon 4, et juste sur notre gauche, nous avons le stand de Bouygues Télécom. En tout cas, on est ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Merci beaucoup. Anthony Colombani, directeur corporate et RSE du groupe Bouygues Télécom. Ce podcast est toujours, bien sûr, en replay sur les applications de Radio Immo et sur tous les agrégateurs de podcasts. Et on enchaîne nos programmes.
Merci.
Merci, Anthony.
Au revoir.
Le SMCL. Le Salon des maires et des collectivités locales du 16 au 18 novembre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Action Logement sur Radio Immo et Radio Territoria.